L'Afrique dans tous ses états. Une émission réalisée et produite par Radio FM+.
Eh bien, bonjour à tous. Nous voici réunis dans ce studio pour une énième épopée africaine. Voilà. Et aujourd'hui, mon invité nous transportera depuis, je pense, son Congo natal jusqu'à Montpellier ce jour. Mais comme vous pourrez peut-être le constater sûrement, vous verrez que c'est quand même quelqu'un qui a roulé sa bosse un petit peu dans le monde entier. Donc, c'est un citoyen un peu du monde également. Et j'ai beaucoup de plaisir à le recevoir. D'autant que c'est quelqu'un qui est très engagé et dans une lutte qui m'importe beaucoup aussi, qui est la lutte pour la préservation, entre autres, de la forêt. Donc, Jean-Paul Wabotaï, pour ne pas le nommer. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour Marie-Claude.
Et j'aimerais que tu te présentes un petit peu comme ça te vient, comme tu as envie de le faire avec nous.
Merci beaucoup. Et je suis Jean-Paul Wabotaï. Dans mon nom, Wabotaï, il y a Bota. Bota, c'est la botanie.
Oui, comme par hasard.
Donc, mes parents viennent de la République démocratique du Congo. Je suis né à Kinshasa, la République démocratique du Congo. Et mes parents viennent de la région où se trouve le deuxième poumon de la Terre, donc Mbandaka, l'Équateur. Et voilà, à l'âge de 15 ans, j'ai demandé à mes parents de voyager, de faire... le tour du monde, ils m'ont autorisé de partir. Je suis parti à l'âge de 15 ans. Je suis arrivé en France à l'âge de 17 ans. Mais avant tout ça, à 9 ans, je faisais partie de la chorale Chem Chem Yetou. J'ai appris à chanter, à danser, à faire du théâtre. Donc, il y avait des grands musiciens comme Ray Lema, Lokwa Kanza. Ils viennent de cette école-là. Et quand je suis arrivé à 17 ans en France, donc je suis allé à l'école de football, Paris Football Club et Paris Saint-Germain, là où Paris Saint-Germain récupère ses joueurs. Et deux ans après, j'ai rencontré le chorégraphe dramaturge du Ballet National du Congo, qui était à Paris, Mouchi Mae, il avait une école de danse Cette école a été créée en partenariat avec Paco Rabanne, qui avait soutenu énormément d'artistes africains à cette époque, dans les années 80, donc dans Paris 11e, rue Colonel Fabien. Donc j'étais dans cette école de danse et j'ai dansé, j'ai joué au foot et puis j'ai décidé de suivre ma carrière vers la danse. Donc je suis sorti diplômé de cette école et j'ai été embauché par Angélique Kidjo, par le ballet Lima, et le ballet Lisanga. Donc on tournait dans toute l'Europe, et c'est avec Angélique Kidjo que j'ai pu voyager dans le monde entier, en Amérique et notamment en Australie, là où vraiment j'ai craqué avec la connaissance de la culture aborigène. Et quand on est rentré ici en France, on est retourné en France et j'ai dit, je pense que je vais retourner en Australie. Donc, 6 mois après, je suis rentré en Australie et comme par hasard, la plus grande chanteuse de l'Australie, Kate Seberano, parlait de moi avec l'agent qui nous avait fait venir en Australie. Et j'ai pu rester en Australie, j'ai signé un contrat dans son label et j'ai travaillé avec elle, j'ai travaillé avec le plus grand musicien, l'équivalent à Johnny Hallyday ou Patrick Bruel d'ici, là-bas. Mon disque a été presque un disque d'or, je suis reconnu là-bas. Et les aborigènes, c'était à Yarraba. Donc, le gouvernement australien m'avait contracté pour aller travailler donc, avec des enfants, la communauté des Yarraba, où il y avait une sorte d'échange culturel. Moi, j'enseignais la danse, le chant, la percussion, et ils m'ont appris la peinture de rêve.
Oui, La culture des rêves. Puisque c'est la civilisation, la culture des rêves. Hein, c'est vraiment,
exactement.
C'est fascinant. Hein, la culture aborigène,
c'est
elle est fascinante.
Très fascinant.
Ouais. Alors, si je, simplement, si je voulais faire, si je voulais faire un petit renvoi concernant justement, puisque l'émission, le prétexte, c'est aussi de faire connaître toutes les facettes de l'Afrique. Je dirais que là, dans ton trajet à toi, on retrouve très très bien illustré, plus que parfaitement illustré, toute cette richesse qu'on trouve en Afrique, qui est effectivement le chant, la danse, le théâtre, parce que tout ça, souvent on oublie le théâtre, et le théâtre africain, c'est fascinant,
oui.
Et déjà, intuitivement, instinctivement, culturellement, déjà vous apprenez tout ça, et toi en plus tu as appris ça aussi après dans des écoles, puis tu as eu il y a cette mobilité aussi des Africains, qu'on ne se rend pas compte, mais
oui.
Parce qu'on les voit souvent dans leur village, etc., alors qu'il y a une mobilité énorme en Afrique, hein, franchement, et donc toi, ça t'a pris très tôt, avec des parents, je pense, très ouverts et très tolérants, parce qu'il faut le faire, hein, laisser son gamin de 15 ans partir, etc. Donc
fait.
Voilà, il y a tout ça. Et je dirais qu'en plus, dans la culture africaine, le football, c'est pas rien.
Oui.
Comme dans beaucoup, d'ailleurs, si on prend l'Amérique latine, etc. Mais dans la culture africaine, c'est pas rien. Et on voit les gamins qui jouent pieds nus avec des espèces de ballons qui se fabriquent, etc.
Tout à fait.
Donc là, je veux dire, pour toi, la palette, elle était complète, quoi.
Complètement. et j'ai pas oublié une chose très importante. Mon père avait une équipe de football en première division.
Ah, en plus.
Il s'appelait Mambenga.
Ah,
donc
oui.
Mon père brassait déjà la culture, la jeunesse chez nous.
Oui, tout à fait.
Depuis,
en plus,
mon jeune âge,
ouais.
J'ai côtoyé des grands footballeurs du Congo qui jouaient en première division et tout.
Donc voilà, et puis tu en as fait quand même des choses assez extraordinaires. Et je dirais qu'à un moment, effectivement, quand tu dis, voilà, ton choix à un moment s'est porté, parce que je pense qu'au foot, tu te débrouillais plutôt bien. Hein, je crois savoir, voilà.
Oui.
Et mais en fait, après, ton choix s'est porté plutôt sur le côté artistique, voilà, qui t'a emmené très loin, qui t'a permis de voyager, de connaître d'autres cultures, etc.
Tout à fait.
Donc, on est arrivé là avec les aborigènes.
Oui.
Hein,
exact.
Mais enfin, bon, pour arriver à Montpellier, quand même, je pense qu'entre-temps, il y a eu peut-être d'autres étapes.
Waouh. Plusieurs étapes.
Donc,
je suis en Australie. Et un jour, je vais dans le Centre culturel français, je vois un livre d'un auteur qui s'appelle Franck Lomo. Il a écrit un livre sur les étoiles de Gainsbourg. Et je tombe sur ce livre et j'ai commencé à lire. Et j'ai découvert que Gainsbourg avait des textes inédits qu'il n'avait jamais chantés, utilisés. Mais je vais revenir en arrière. À l'âge de 12 ans, j'allais au Centre culturel français à Kinshasa. Et un jour, j'avais entendu une chanson. Je veux New York, USA. Et il y avait que la percussion et la voix a cappella. Bon, pour moi, c'était une chanson française avec quelqu'un qui joue de la percussion derrière. Mais à cette époque-là, dans les années 70, on écoutait du Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Eddie Mitchell et tout ça. Donc, 10 ans après, je suis en France et je vois les clips New York, USA. Et bah. Celui qui chante ça, c'est un blanc, mais c'est Gainsbourg. Et voilà, donc, entre parenthèses, je suis à Melbourne, j'ai découvert le livre, j'ai dit, mais c'est lui. J'avais tellement envie de faire quelque chose avec ces textes, parce que à cette époque-là, entre 50 et 60, 70, et cette époque-là, Gainsbourg écrivait de la poésie. Vraiment. Et je suis un amateur de la poésie. Et j'adorais la poésie. Et j'ai découvert ces textes de Gainsbourg. J'ai écrit à Melody Nelson, donc la maison des disques de Serge Gainsbourg, en demandant si je pouvais interpréter ces textes inédits. Ils ont dit, si tu es à Paris, on verra. Et bien, un mois après, je prends mon avion, j'arrive à Paris, je rencontre Charles Gainsbourg.
Rien ne t'arrête, toi. Hein.
Voilà. C'est l'envie et la volonté.
Oui,
hein.
Oui.
Je rencontre Charles Gainsbourg. Il y avait Yvan Attal, Il nous regardait et puis Charlotte, il m'a dit, raconte-moi d'où tu viens et tout ça. Et j'ai commencé à raconter mon histoire, comment je suis parti de l'Afrique, comment je suis arrivé en France et comment j'ai pu aller dans le monde entier. Et aujourd'hui, je vais chanter des textes inédits de Gainsbourg. Elle me regardait et disait, c'est complètement comme mon père, quoi. C'est inédit tout ça. C'est... Alors, pour moi,
c'est vrai que le côté un peu folie, on le retrouve en effet. Oui. Je confirme.
Alors, elle a dit, voilà, Jean-Paul, pour moi, je pense que je te donne l'autorisation. Il faut voir maintenant avec Warner Chappell, Philippe, Mélodie, Nelson, Philips, donc la maison des disques, Universal. Mm-hmm. Et ça a pris 10 ans pour avoir
Oui, mais ça, c'est pas étonnant. Quand on connaît tout, l'histoire de l'industrie du disque et tout ce qui se passe autour, forcément, oui. Il fallait le vouloir. Hein.
Il fallait le vouloir et il disait, mais lui, il vient d'où? Et puis, 10 ans après, ils m'ont donné les droits pour composer des musiques, arranger, émettre des textes de Gainsbourg sur ces musiques-là.
D'accord, donc voilà, et à partir de là, donc
À partir de là, je suis resté à Paris, et un jour, on m'invite à New Morning pour aller voir un chanteur au nom de Emmanuel Job.
Ah oui, ça
je
me parle.
Je vais au New Morning, et je regarde ces chanteurs qui chantent du gospel. Et son manager me connaissait aussi, Claire Laroche. Mmh. Elle me disait, vous deux, vous pouvez faire quelque chose. Donc, 2000, hein, on est en 2000, Emmanuel m'invite à venir ici à Montpellier
Voilà, il est Montpellierin, enfin de la région Montpellierin.
Exactement. Mmh. Mais en fait, entre-temps, donc en 2000, donc quand je suis retourné à Paris, c'était pas seulement pour Gainsbourg, mais c'était pour chanter la paix, parce qu'au Congo, il y avait la guerre.
Il y avait la guerre, oui.
Et donc, j'avais avec un ami, un grand arrangeur français, Jacques Bougnard, un pianiste, il était d'ailleurs directeur musical de Disney. Mm-hmm. J'ai composé 10 chansons mi-classiques, mi-africains et modernes, et avec un arrangeur américain, Marc Mir. Et c'est lui qui avait un orchestre de musiciens composés, de musiciens d'orchestre de Paris, de Lyon et tout ça. Et on avait donné un concert au ministère des Finances à Paris pour la paix. Donc, on est en 2000. Donc, si je reviens légèrement avant, en 98, j'ai été revenu. Parce que j'étais revenu en France, parce que j'avais été embauché par Nuit Métis, le festival Nuit Métis à Marseille, organisé, géré par Marc Ambrogiani. Mm-hmm. Et c'est là-bas que j'avais rêvé, la France allait devenir championne du monde.
98 quand même, on s'en souvient.
Exactement. C'était un moment incroyable.
Ouais.
J'avais acheté ma toile, j'ai mis là, j'ai peint un tableau, j'ai mis 3 euros, j'ai mis les pierres précieuses dedans. Et finalement, il s'avère que la France était devenue championne du monde.
Avec 3 euros.
Avec 3 euros. Donc un tableau prémonitoire, un tableau que j'avais rêvé, comme la technique aborigène.
Aborigène, oui.
Voilà, donc j'y reviens en 2000. Et je viens ici à Montpellier pour rencontrer Emmanuel Job. Mmh. Et c'est là où j'ai craqué, j'ai beaucoup aimé et apprécié cette ville tranquille. Ça ne correspond pas à Sydney, à Melbourne, mais j'ai trouvé l'énergie magnifique parce qu'il y a cette énergie, on va dire, il y a l'unicité. Hein. Il y a un mélange entre des citoyens du monde et des habitants ainsi que des étudiants qui viennent du monde entier. Donc ça crée une énergie complètement jamais vue, hein,
quelque part.
En même temps, tranquille, et ça bouge aussi.
Et ça bouge en même temps.
Voilà. Ça bouge en même temps.
C'est une fausse tranquillité. En
fait. Et mais voilà, citoyen Montpellier. Hein.
Voilà. Donc voilà Montpellier. Alors, comme ça bouge beaucoup dans le récit aussi, je te propose qu'on fasse une petite pause musicale, parce qu'encore, il y a pas mal de choses à dire. Et on fasse une petite pause musicale. Qu'est-ce que tu nous proposes, donc ?
Alors, avant, j'ai parlé de « Retiens tes larmes » parce que je voulais faire le lien avec la terre-mère qui pleure. Mais je dirais « Les mots inutiles ».
C'est ce qui a été prévu, là.
Oui, les mots inutiles, ces textes de Gainsbourg, c'est un texte, c'est un poème magnifique. Il dit « Les mots sont usés jusqu'à la corde et on voit le jour au travers et l'ombre des années mortes hante le vocabulaire ».
D'accord. Donc, les mots inutiles avec la voix de Jean-Paul. Les mots de Gainsbourg et la voix de Jean-Paul.
Exactement.
Et la musique. À tout à l'heure.
Les mots sont usés.
Les mots sont usés.
Jusqu'à la corde.
Jusqu'à la corde.
On voit le jour au travers.
Le jour au travers.
Et l'ombre des années mortes.
Des années mortes.
Entre le vocabulaire. Amène-moi hors de lieu commun. Ôte-moi de l'idée que tu ne peux t'exprimer. De par des fichiers. Dans mes rêves,
tu ne parlais pas.
Simplement,
tu prenais mon bras.
Et tu voyais.
Il
vaut mieux laisser au poète le soin de faire des pirouettes. C'est très joli, oui, dans le livre. Mais tous ces mots dont tu t'ennuies,
ces mots tu
parti dans les paroles de Serge Gainsbourg, dans la voix et la musique de Jean-Paul Boisbouteille, que je reçois en ce moment. Mais bon, il faut qu'on revienne un peu parce qu'il y a beaucoup encore de choses à dire. Jean-Paul nous a juste un peu évoqué tous ses mouvements et tout son tour du monde dans sa vie et tout ce qu'il a pu faire. Et là, moi j'aimerais, Jean-Paul, qu'on revienne sur, sur les, ton admiration, en fait, ta rencontre avec les aborigènes, qui a quand même... qui t'a beaucoup inspiré, et entre autres, puisque là tu as fini la première partie en nous racontant le rêve prémonitoire que tu avais eu, hein, de la Coupe du Monde, effectivement, j'y étais.
Oui.
Donc voilà, j'y étais avec un ami africain d'ailleurs que tu connais, on a assisté à ça en direct, etc. Et donc à partir de là, tu t'es mis à peindre.
Exactement.
Voilà. Et tu as peint avec cette technique que tu avais enseignée, les aborigènes.
Le pointillisme.
Et voilà, le pointillisme. Et donc, voilà, et ça a lieu à, ça donne lieu à une expo qui est encore, qui passe encore quelques jours
tout à, fait.
À côté de Montpellier, à Vendargues.
Exactement.
Voilà, mais tu peux nous raconter un petit peu comment tu peins là tout ça, là. C'est magnifique ce que tu fais.
Alors, en fait, après cette œuvre de 1998, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas créer complètement une histoire qui va raconter l'histoire générale de la Coupe du Monde à travers la peinture. Et donc, en rentrant dans ce, on va dire, dans ce rêve de football, et je découvre plusieurs messages. Donc, dans le football, il y a le monde entier. La Coupe du Monde abrace le monde entier. Et il y a aussi ces messages de paix. D'ailleurs, on retrouve beaucoup dans mes peintures la colonne de la paix.
La colonne de la paix,
c'est,
entre
autres, c'est pour le rapprochement des peuples du monde. Et dans cette exposition, j'ai remercié énormément le maire de Vendargues, M. Guy Loret, qui m'a invité
et
là-bas.
Son équipe qui a organisé une super, voilà, une super exposition.
Vraiment. Tout à fait. Et l'exposition se terminera demain, mais vous pouvez toujours le voir à travers le Facebook et tout ça. Mais si vous avez
Facebook
la chance de venir,
pardon, dis-le bien,
du mien,
du
Jean-Paul
Loire-Bataille. Oui,
et de
sinon,
la mairie
de la
aussi.
Mairie aussi de,
exactement.
De, voilà, d'accord.
Et sinon, il y a une page, notre site web, qui est www.22worldcuppaintings.com.
Donc ça, c'est la Coupe du Monde, mais ça sera peut-être indiqué sur le Facebook ou je sais pas.
Oui,
d'accord,
c'est indiqué, ouais.
D'accord.
C'est indiqué.
Et puis sur la mairie de l'Amérique, qui avait l'air quand même très emballée, hein, par.
Oui.
Il y avait de quoi.
Il y avait de quoi. Et c'était fort parce que j'ai déjà exposé dans des grands musées mais là, être avec ces enfants qui me posaient des questions, qui étaient curieuses de voir ces peintures. Comme une dame aujourd'hui, ce matin, elle a dit « Ouais, mais je n'ai jamais vu ça. » Et ben voilà, c'est ça qui reste, qui restera dans la mémoire et dans des souvenirs des gens. Et ces messages de paix.
Tout à fait. C'est vrai que dans l'expo, moi qui l'ai vu, il y a une harmonie des couleurs, il y a vraiment effectivement ces messages de paix, ils transparaissent à travers, avec des énergies très différentes selon les années, selon les coupes du monde, mais vraiment
tout
c'est...
À fait.
Alors j'invite vraiment les gens, s'ils peuvent encore aller voir ça, donc c'est à Vendargues, c'est...
Exactement, c'est à Vendargues, la salle Tessier, aux deux rues Général Berthézène.
Oui, c'est assez facile à trouver.
Et c'est facile.
Ouais.
Quand
oui,
on rentre,
il y a un parking à côté en plus.
Voilà,
d'accord.
À Vendargues, on tombe sur cette salle.
Et sinon, de toute façon, après, sur les pages Facebook et sur les documents de la mairie et
exactement.
Puis les tiennes aussi.
Oui.
Franchement, je vous invite vraiment à aller voir ça parce que c'est assez, assez extraordinaire. Je comprends que pour l'équipe municipale, ça a été un plaisir d'accueillir cette exposition. C'est pas n'importe quoi.
Oui, c'est
voilà.
Vrai.
Bon, donc là, nous en avons un peu fini, si tant est qu'on puisse finir, avec la période aborigène, mais en même temps, évidemment, en Australie, tu t'es rapproché de la nature, entre autres, d'accord, et voilà, et de ce qui t'est important, puisque tu as parlé quand même, c'est vrai que le Congo abrite une des plus grandes forêts du monde, hein, tu as parlé de poumons, hein, de la planète, voilà, il n'y a pas que le Brésil, hein, il y a aussi le Congo, on en parle peut-être un peu moins, et donc j'aimerais bien que tu nous parles de ton engagement par rapport à tout ça.
Et ben voilà, alors... j'étais prof à The Voice Espagne. Donc en 2002, j'ai signé un contrat à l'école de gospel de Barcelone. Et voilà, et j'étais donc directeur artistique et chorégraphique. Et The Voice m'ont découvert, ils m'ont invité à aller enseigner des stars de là-bas. Et puis un jour, j'ai passé à la télévision, j'ai parlé de moi. Et bingo, Al Gore, le vice-président américain et le président de Costa Rica, ancien président de Costa Rica, Oscar Arias, ils m'ont invité à Porto Rico et je suis arrivé là-bas. Il y avait une conférence, il y avait les musiciens, Émeric Martin, des artistes, des prix Nobel de la paix, de Deepak Chopra, des gens dans des milieux spirituels et tout ça. Et Al Gore parlait du changement climatique. Et j'ai été fasciné par lui, ce qu'il disait. Et les gens se moquaient de lui. Il disait, il a sorti un film, il se cache derrière tout ça parce qu'il n'est pas devenu le président des États-Unis. Après, il m'a invité. On est allé manger ensemble avec le groupe, mais il était à côté de moi. Il dit, mais toi, tu viens de la République démocratique du Congo. Tu dois faire quelque chose en tant qu'artiste. Je rentre à Montpellier. Donc 2017, je vois la neige, le soleil, et là j'ai décidé de créer, de faire quelque chose. Donc j'ai créé l'association 1 million d'arbres, et je suis allé voir M. Sorel en disant, voilà, M. Sorel, j'ai envie de planter 1 million d'arbres. Quoi, 1 million d'arbres? C'est fou comme projet. Mais j'adhère, et on peut planter 1000 arbres en mars et en novembre. Et voilà, c'est parti 2018-2019. Le président de la République est venu, il a aimé le projet, il nous a donné le haut patronage. Le projet a été lancé, tout le monde s'est accaparé de ce projet. Nous on voulait voir des arbres, mais sauf qu'ils ont planté peu d'arbres, ils ont gardé beaucoup de chèques et nous on n'a rien eu, mais c'est pas grave, on a continué, on voulait rassembler les gens, on a rencontré Francis Allais, on a rencontré Christian Allier qui a créé les liens entre nous et Francis Allais. Christian Allier, un grand homme, et qui a laissé un livre d'ailleurs qui parle de lui, son lien avec les arbres, l'Afrique et
la forêt.
Toujours la forêt. La forêt. Il restera toujours dans nos mémoires et dans nos cœurs, paix à son âme. Et voilà, le chemin, on a continué les chemins. Aujourd'hui, on a créé la Semaine nationale, on invite des communes à participer. Même si on n'a pas réussi à voir les chèques, on a eu 5 hauts patronages de Emmanuel Macron, Barbara Pompili, d'Elisabeth Borne, des Béchus, du ministère de l'Agriculture. Et voilà, pour la première fois que nous avons eu du soutien financier, c'est la fondation Arconic. C'est une fondation américaine qui nous ont donné 30 000 euros pour la première fois en disant, c'est pas possible, on peut pas laisser des gens comme vous, les initiateurs d'un grand projet national, sans subvention. Donc en fait, moi, on m'a associé dans ils ont créé un lien politique en fait. Moi, nous sommes apolitique. Et voilà. Mais on plante des arbres, on a dépassé 1 million d'arbres.
Vous avez dépassé.
Voilà.
D'accord. Donc, et vous en avez planté un petit peu partout alors
Partout. Cette année, nous avons planté dans le nord, à Guérande, dans le village de Jacques Chirac, à Saint-Sétier. Nous avons créé l'Arboretum de l'Humanité. Nous avons 8 hectares là-bas. On a
c'est
signé
où,
un partenariat.
L'Arboretum de l'Humanité.
À Saint-Sétier.
À Saint-Sétier, d'accord.
Voilà, c'est là où, dans le village de Jacques Chirac. Et nous avons signé un partenariat avec la commune de Mons, là où 1000 hectares avaient brûlé dans l'Aude.
Dans l'Aude, oui.
Nous sommes en train, en tripartie, entre 1 million d'arbres, l'association 1 million d'arbres, l'ONF et la mairie, et nous allons faire de miracles. Et la planète appartient à nous tous, et on doit les protéger aujourd'hui. Et chaque arbre compte. Un arbre égale une vie.
C'est bien de nous le rappeler parce que... Alors on voit bien quand même comment, par exemple, Al Gore, qui avait eu cette idée, qui a eu cette intuition très tôt, comment il a été après l'objet de critiques, de railleries, etc. Et on sent bien que maintenant, quand même, de plus en plus de gens sont concernés. Malheureusement, souvent, derrière, il y a des histoires de gros sous. Tu as parlé du fait vous n'aviez pas eu beaucoup de subventions, de financement. Et puis
On n'a jamais eu de subventions.
Vous n'avez jamais eu, voilà, alors que c'est quand même un peu une aberration. l'immigration.
Oui.
Et par contre, on voit bien que, on sent bien que tout ça, c'est sous-tendu par des histoires économiques qui ne veulent pas, hein, voilà, tous les acteurs et de l'économie, tout ce qu'on retrouve dans le monde entier, quoi.
Voilà.
Donc, y a de quoi être dans la rabia, comme on dit en espagnol.
Complètement.
La rabia. Et, voilà. Et en tout cas, bah, écoute, Jean-Paul, ce que je pense, ce qu'on fera, c'est que, est-ce que tu veux redonner tes coordonnées, là où on peut te joindre, ou si on s'intéresse aux arbres, etc.
Super.
Voilà, il faut que tu nous donnes tout ça.
Alors,
tu le dis là, à l'antenne.
Merci beaucoup, Marie. Alors, pour nous rejoindre, c'est très facile. www.1000000d'arbres.com 1000000d'arbres.com
Au pluriel.com.
Exactement.
D'accord.
Nous sommes
là. Il y aura tout.
Il y aura tout. Et nous vous attendons pour la 4e semaine nationale de plantation d'arbres en France qui aura lieu du 24 novembre au 8 décembre, qui est la journée mondiale de l'environnement.
De l'environnement.
Et
ouais.
Là, nous allons marquer vraiment les mémoires parce que nous avons un projet de rassembler des enfants et des anciens en même temps.
D'accord, ça c'est une très bonne idée, oui, c'est
voilà.
Formidable. Vous êtes les plus concernés. En
oui.
tout cas, voilà, donc je vous invite éventuellement, si vous voulez faire un petit don, je suppose que vous prenez les dons aussi.
Bien sûr.
Voilà, pour les dons, pour les arbres.
Exact.
Donc, merci à tous. Bon, on vous rendez, si vous voulez, tout de suite, même si ça vous intéresse, sur le site d'un million d'arbres, au pluriel.
Voilà.
Et puis, je propose, Jean-Paul, qu'on se revoie avant, justement, cette semaine dont tu parles, au mois de novembre,
oui.
qu'on se revoie à ce moment-là, dans ces dates-là.
Génial.
Hein,
que tu
reviennes nous raconter tout ça, nous expliquer un peu où ça en est.
Super.
Voilà, et je remercie nos auditeurs. Donc, nous sommes promenés un petit peu partout. Nous sommes partis du Congo et vous voyez qu'avec une très belle forêt qu'on doit protéger. Et nous sommes arrivés ici avec nos arbres, ici aussi. Et notre plus d'un million d'arbres qui a déjà été planté par l'association. Merci beaucoup Jean-Paul Wabotaï, artiste multidisciplinaire qui nous a montré quand même voilà, tout ce qu'il pouvait faire et nous a fait écouter un morceau de ses textes de Gainsbourg qu'il a mis en musique et qu'il a interprété. À bientôt, au revoir.
Au revoir.
Enfermé dans mon lit cache, il est une enfant peu sage que j'ai tendrement aimé comme les oiseaux des îles, insouciante et fragile. J'ai voulu l'apprivoiser.
Mais c'est fut bien difficile. Tout effort fut inutile. Inutile, je l'avoue. J'aurais dû briser les ailes de la petite hirondelle. Au mieux, lui tordre le cou. Dans sa tête délinante, elle avait peu de jugeur. Mais elle savait si bien. La petite bécassine s'est posée sur ma poitrine et m'est mangée dans la main.